Sally, d'Isaac Asimov. Sally arrivait par la route du lac, alors je lui fis signe et l'appelais par son nom. J'aimais toujours voir Sally. Je les aimais toutes, comprenez-moi bien, mais Sally était la plus jolie. Cela ne faisait aucun doute. Elle accéléra un peu quand j'agitais la main. Sans rien perdre de sa dignité, elle n'était pas comme ça. Elle arriva simplement un peu plus vite pour montrer qu'elle était heureuse de me voir aussi. Je me tournai vers l'homme debout à côté de moi. « Voilà Sally, » lui dis-je. Il me sourit et hocha la tête. Mrs. Esther l'avait amené en disant « Voilà Monsieur Gellhorn, Jack. Vous vous souvenez, il a écrit pour demander un rendez-vous. » Elle faisait la conversation, c'est tout. « J'ai un million de choses à faire à la ferme et je ne peux vraiment pas perdre mon temps à m'occuper du courrier. C'est pourquoi j'ai Mrs. Esther. Elle habite à côté. » Et elle s'est très bien veillée à toutes les stupidités sans venir à tout propos me déranger avec ses détails. Et surtout, elle aime Sally et les autres. Certaines personnes ne les aiment pas. « Heureux de vous voir, monsieur Gellhorn, » dis-je. « Raymond J. Gellhorn, » fit-il en me tendant sa main, que je pris, serrai et lui rendis. C'était un type assez grand, une demi-tête de plus que moi et plus large aussi. Il devait avoir la moitié de mon âge, la trentaine. Il avait des cheveux noirs, plaqués, avec la raie au milieu, et une fine moustache, très soigneusement taillée. Sa mâchoire s'élargissait au-dessous des oreilles, ce qui donnait l'impression qu'il souffrait des oreillons. Il aurait été parfait pour jouer les méchants à la vidéo, ce qui me fit juger qu'il devait être un brave homme, et ce qui prouve que la vidéo ne peut pas se tromper à tous les coups. « Jacob Folkers, » répondis-je, « que puis-je pour vous ?» Il me sourit. C'était un large sourire, montrant des dents blanches. « Vous pourriez me parler un peu de votre ferme que voici, si ça ne vous dérange pas trop. » J'entendis Sally arriver derrière moi et je tendis la main. Elle se glissa dessous et je sentis les mailles dures et lisses de son aile, toute tiède. « Une belle automatobile, » estima Gellhorn. C'était une façon de parler. Sally était une décapotable de 2045, avec un moteur positronique Ennis Carlton et un châssis Armat. Elle avait la ligne la plus belle, la plus élancée que j'ai jamais vue. Je connaissais pourtant tous les modèles sans exception. Depuis 5 ans, elle était ma préférée, et je lui avais consacré et ajouté tout ce que je pouvais rêver. Pendant ce temps, il n'y avait jamais eu un être humain derrière son volant. Pas une seule fois. « Sally, » dis-je en la caressant tendrement. « Je te présente, monsieur Gellhorn. » Le ronronnement des cylindres de Sally monta d'un ton. Je tendis l'oreille avec attention pour guetter le moindre bruit insolite. Depuis quelque temps, j'entendais cogner le moteur de presque toutes les voitures, et le changement d'essence n'y avait pas fait grand bien. Toutefois, Sally tournait aussi rond que sa peinture était lustrée. « Vous donnez des noms à toutes vos voitures ?» demanda Gellhorn. Il paraissait amusé, et Mrs. Esther n'aime pas les gens qui ont l'air de se moquer de la ferme. Elle répliqua avec vivacité. « Certainement, les voitures ont chacune leur personnalité, n'est-ce pas ? Les coupés sont tous masculins et les décapotables féminins. » Gellhorn souriait de nouveau. « Est-ce que vous leur faites faire garage à part ?» Mrs. Esther le foudroya du regard. Gellhorn s'adressa à moi. « Et maintenant, monsieur Folkers, est-ce que je pourrais vous parler en particulier ?» « Ça dépend. Êtes-vous journaliste ?»« Non, monsieur. Je suis agent de vente. La conversation que nous aurons ne donnera lieu à aucune publication. Je puis vous assurer que je tiens à ce qu'elle reste strictement privée. » Nous descendîmes sur le chemin. Mrs. Esther s'éloigna. Sally nous suivit. « Cela ne vous ennuie pas que Sally nous accompagne, n'est-ce pas ? » demandai-je. « Pas du tout. Elle ne peut pas répéter ce que nous dirons, hein ?» Il rit de sa propre plaisanterie et frictionna la calandre de Sally. Elle emballa son moteur et Gellhorn retira vivement sa main. « Elle n'est pas habituée aux étrangers, » expliquai-je. Nous nous assîmes sur le banc, sous le grand chêne, d'où nous pouvions admirer le circuit privé de l'autre côté du lac. C'était l'heure chaude de la journée et les voitures étaient sorties en force, au moins 30 d'entre elles. Même de loin, je puis voir que Jérémia jouait à son petit jeu habituel en arrivant subrepticement derrière un ancien modèle sérieux pour accélérer d'un coup et doublait à toute vitesse en faisant hurler ses freins exprès. 2 semaines plus tôt, il avait fait dégager de l'asphalte le vieil Angus, et j'avais dû sévir en coupant son moteur pendant 2 jours. Cela n'avait servi à rien, hélas, et il fallait croire qu'il n'y avait rien à faire. Jérémia est un modèle de sport, et ils sont tous des têtes brûlées. « Eh bien, monsieur Gellhorn, fis-je, si vous me disiez pourquoi vous voulez ces renseignements ?» Mais il regardait simplement autour de lui. « C'est un endroit ahurissant, monsieur Fokers. »« J'aimerais bien que vous m'appeliez Jake, comme tout le monde. »« D'accord, Jake. Combien de voitures avez-vous ici ?»« 51. Nous en recevons une ou deux neuves chaque année. »« Une année, nous en avons eu 5. »« Nous n'en avons encore perdu aucune. »« Elles sont toutes en parfait état de marche. » Nous avons même une Matomo de 2015, en état de marche. Une des premières automatiques. Elle a été la première de l'écurie. Ce bon vieux Mathieu. Après tant, il restait presque toute la journée au garage, mais aussi, il était le grand-papa de toutes les voitures à moteur positronique. C'était au temps où les aveugles de guerre, les paraplégiques et les chefs d'État étaient les seuls à conduire des automatiques. Mais Sanson Harridge était mon patron. Et assez riche pour s'en procurer une. À l'époque, j'étais son chauffeur. Cette pensée me donne l'impression d'être vieux. Je me souviens du temps où pas une automatobile au monde n'était assez intelligente pour retrouver son chemin et rentrer seule à la maison. J'étais le chauffeur de gros tas de mécaniques mortes qui avaient besoin à tout instant de la main d'un homme à leur commande. Ces machines-là avaient l'habitude de tuer chaque année des milliers de personnes. Les automatiques avaient réglé ce problème. Un cerveau positronique réagissait beaucoup plus vite qu'un cerveau humain, naturellement, et payait les gens pour qu'ils ne touchent pas aux commandes. On montait, on tapait sa destination, et on laissait la voiture prendre le chemin qu'elle voulait. Nous trouvons cela tout naturel aujourd'hui, mais je me rappelle les premières lois obligeant les vieilles machines à quitter les grandes routes, et limitant leur utilisation aux automatiques. Dieu, quel tollé ! On traitait l'affaire de tous les noms, communistes ou fascistes. Mais les routes furent dégagées et le massacre arrêté, tandis que des personnes de plus en plus nombreuses allaient et venaient sans problème à la nouvelle manière. Naturellement, les automatiques étaient de 10 à 100 fois plus chères que les voitures à conduite manuelle, et peu de gens avaient les moyens de s'offrir un véhicule particulier. L'industrie se spécialisa dans la construction d'omnibus automatiques. Vous pouviez appeler une compagnie, et en avoir un qui s'arrêtait devant votre porte en quelques minutes pour vous emmener où vous vouliez. En général, on se trouvait en compagnie d'autres personnes allant dans la même direction. Mais quel mal y avait-il à cela? Cependant, Samson Harridge avait une voiture particulière, et le jour de son arrivée, j'allais trouver le patron. La voiture n'était pas Mathieu, pour moi alors. Je ne savais pas qu'elle allait devenir un jour le doyen de la ferme. Je savais seulement qu'elle me volait mon emploi, et je la détestais. J'ai dit « Vous n'allez plus avoir besoin de moi, monsieur Harridge. »« Qu'est-ce que vous racontez, Jake? Vous ne pensez quand même pas que je vais confier ma personne à une mécanique comme ça? Vous allez rester au volant. »« Mais ça marche tout seul, monsieur Harridge. Ça examine la route, ça réagit correctement aux obstacles, aux êtres humains et aux autres voitures. Ça se souvient des itinéraires. »« C'est ce qu'on dit, Jake, c'est ce qu'on dit. Mais malgré tout, vous allez vous mettre au volant, au cas où quelque chose irait de travers. » C'est drôle comme on peut en venir à aimer une voiture. En un rien de temps, je l'appelais Matthew et je passais tout mon temps à la lustrer et à régler son moteur. Un cerveau positronique reste en meilleur état quand il a à tout instant le contrôle de son châssis, ce qui fait que ça vaut vraiment la peine de garder le réservoir plein en permanence pour que le moteur puisse tourner au ralenti jour et nuit. Avec un peu de pratique, je parvins à savoir comment se sentait Matthew rien qu'au bruit de son moteur. À sa façon, Harridge finit par avoir de l'affection pour Mathieu, lui aussi. Il n'avait personne d'autre à aimer. Il avait divorcé ou survécu à 3 femmes, et il vécut plus vieux que ses 5 enfants et ses 3 petits-enfants. Ce qui fait qu'à sa mort, on n'a pas été tellement étonné de le voir léguer toute sa fortune à une ferme pour les automobiles à la retraite, avec moi à sa tête et Mathieu comme premier membre d'une lignée distinguée. C'est devenu toute ma vie. Je ne me suis jamais mariée. On ne peut pas être marié et soigner en même temps des automatiques comme elles doivent l'être. Les journaux ont trouvé ça drôle, mais au bout d'un moment, ils ont cessé de s'en moquer. Il y a des choses qui ne prêtent pas à la plaisanterie. Vous n'avez peut-être jamais eu les moyens de posséder une automatique, et vous n'en aurez peut-être jamais, mais croyez-moi, on finit par les aimer. Elles sont dures au travail et affectueuses. Il faudrait être un homme sans cœur pour en maltraiter une, ou supporter d'en voir une maltraitée. C'en est venu au point que lorsqu'un homme avait eu une automatique depuis un certain temps, il prenait des dispositions pour qu'elle aille à la ferme, s'il n'avait pas d'héritier sur qui il pouvait compter pour en prendre soin. J'expliquais tout cela à Jello. 51 voitures, s'exclama-t-il. Cela représente beaucoup d'argent. 50 000 minimum par automatique, comme investissement initial, lui dis-je. Elles doivent valoir bien plus que ça maintenant. J'ai fait des choses pour elles. Il doit falloir beaucoup d'argent pour faire marcher la ferme. Vous pouvez le dire. La ferme est une organisation sans but lucratif, ce qui nous vaut des réductions d'impôts, et naturellement, les nouvelles automatiques qui nous arrivent viennent avec leur dot, généralement une petite fortune, placée en fidéicommis. Malgré tout, les frais ne cessent d'augmenter. Je dois veiller à l'entretien des jardins, remplacer continuellement l'asphalte de la piste ou le réparer. Il y a l'essence, l'huile, les réparations, les gadgets, ça n'en finit plus. Et vous y avez consacré beaucoup de temps? C'est sûr, monsieur Taylor, 33 ans. Vous ne semblez pas y gagner grand-chose pour vous-même. Ah non? Vous m'étonnez, monsieur Taylor. J'ai Sally, et les 50 autres, regardez-la. Je riais, je ne pouvais m'en empêcher. Sally était si propre, ça faisait presque mal. Un insecte avait dû mourir sur son pare-brise ou un grain de poussière était tombé. Alors elle se mettait au travail. Un petit tube était sorti et aspergeait la vitre de Tergosol. Le produit s'étalait sur la pellicule de silicone de la surface et aussitôt, de petits balais éponges se mettaient en place pour chasser l'eau dans la petite rainure qui la faisait couler par terre. Pas une goutte n'éclabossa son capot vert pomme. Balais et tubes de détergent rentrèrent et disparurent. « Je n'ai jamais vu une automatique faire ça !» s'écria Jellorn. « Non, sans doute. C'est un système que j'ai installé spécialement sur nos voitures. Elles sont propres. Elles n'arrêtent pas de polir leurs vitres. Elles aiment ça. J'ai même équipé Sally de lances lustrantes. Elles se lustrent tous les soirs, jusqu'à ce qu'on puisse se voir dans n'importe laquelle de ses parties, pour se raser comme devant une glace. Si j'arrive à trouver l'argent, j'en équiperai les autres filles. Les décapotables sont très coquettes. » « Je peux vous dire comment trouver de l'argent si ça vous intéresse. »« Ça m'intéresse toujours, comment ?»« N'est-ce pas évident, Jack ? N'importe laquelle de vos voitures vaut 50 000 minimum, vous avez dit. »« Je parie que la plupart dépassent ces chiffres. »« Et alors ? Vous n'avez jamais pensé à en vendre quelques-unes ?» Je secouais la tête. « Vous ne comprendrez peut-être pas, monsieur Jellorn, mais je ne peux en vendre aucune. Elles appartiennent à la ferme, pas à moi. » L'argent reviendrait à la ferme. Les statuts de la ferme stipulent que les voitures reçoivent des soins à perpétuité. Elles ne peuvent être vendues. Et les moteurs, alors? Je ne vous comprends pas. Jellorn changea de position et sa voix se fit confidentielle. Écoutez, Jack, laissez-moi vous expliquer la situation. Il y a un important marché pour les automatiques particulières. Si elles pouvaient être construites à des prix assez bas, d'accord? Ça, ce n'est un secret pour personne. Et le moteur représente 95% du prix, d'accord? Or, je sais où trouver un stock de carrosserie. Je sais aussi où je peux vendre des automatiques à un bon prix, 20 ou 30 000 pour les modèles meilleur marché, 50 à 60 000 les plus luxueux. Tout ce qu'il me faut, c'est des moteurs. Vous voyez la solution? Non, monsieur Jellorn. Je la voyais très bien, mais je ne voulais pas le lui dire. Ça devrait vous sauter aux yeux, vous en avez 51. Vous êtes un mécanicien expert en automatobile, Jay. Vous devez l'être. Vous pourriez démonter un moteur et le placer sur une autre voiture, et personne ne remarquerait la différence. Ce ne serait pas très moral. Vous ne feriez pas de mal aux voitures, vous leur rendriez un service. Utilisez vos plus vieilles voitures, utilisez cette vieille Matomo. Allons, allons, monsieur Jellorn, un moment. Les moteurs et les carrosseries ne sont pas deux choses séparées, c'est une unité. Ces moteurs sont habituels à leur propre carrosserie. Ils ne seraient pas heureux sur une autre voiture. Bon, d'accord, je veux bien. Vous avez parfaitement raison, Jack. Ce serait comme si je prenais votre cerveau pour le mettre dans le crâne de quelqu'un d'autre, oui? Vous pensez que vous n'aimeriez pas ça? Je ne crois pas que ça me plairait, en effet. Mais si je prenais votre cerveau pour le mettre dans le corps d'un jeune athlète, hein, Jack? Vous n'êtes plus un genou, si vous aviez le choix. Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir de nouveaux 20 points? C'est ce que j'offre à certains de vos moteurs positroniques. Ils seront placés dans les carrosseries neuves de 57, les tout derniers modèles. J'éclatais de rire. Ça ne tient guère debout, monsieur Gillan. Certaines de nos voitures sont vieilles, peut-être, mais elles sont bien soignées. Personne ne les conduit. Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles sont à la retraite, monsieur Gillan. Je ne voudrais pas d'un corps de 20 ans si, pour cela, je devais creuser des tranchées pendant tout le restant de ma nouvelle vie, sans jamais avoir assez à manger. Qu'est-ce que tu en penses, Sally ? Les deux portières de Sally s'ouvrirent et se refermèrent avec un claquement étouffé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'exclama Jaylord. « C'est le rire de Sally. » Il se força à sourire. Il pensait sûrement que je plaisantais, que c'était une mauvaise blague. Il insista. « Soyez raisonnable, Jake. Les voitures sont faites pour être conduites. Elles ne sont probablement pas heureuses si on ne les conduit pas. » Sally n'a pas été conduite depuis 5 ans. Elle m'a l'air assez heureuse. « Je me le demande. » Il se leva et marcha lentement vers Sally. « Alors Sally, qu'est-ce que tu dirais de faire un petit tour ?» Le moteur de Sally s'emballa. Elle recula. « Ne la bousculez pas, monsieur Gillard, conseillai-je. Elle est assez nerveuse. » Il y avait 2 coupés à 100 mètres sur la route. Il s'était arrêté. Peut-être observaient-ils la scène à leur façon. Je ne m'occupais pas d'eux. J'avais l'œil sur Sally et je l'y gardais. « Du calme. Doucement, Sally, » dit Gillard. Il bondit et saisit la poignée de la portière. Elle ne bougea pas, naturellement. « Ça s'est ouvert il y a 1 minute, créa-t-il. »« Verrouillage automatique, dis-je. Elle tient beaucoup à préserver son intimité, Sally. » Il lâcha la porte et déclara en insistant sur chaque mot. « Une voiture qui tient à préserver son intimité ne devrait pas se promener avec sa capote baissée. » Il recula de 3 ou 4 pas, puis rapidement, si vite que je ne pus l'arrêter, il courut et sauta dans la voiture. Il prit Sally par surprise parce que, en tombant assis, il coupa le contact avant qu'elle puisse le verrouiller. Pour la première fois depuis 5 ans, le moteur de Sally s'arrêta. Je crois que je poussai un cri, mais Jaylord avait tourné la manette sur manuel et l'avait verrouillé ainsi. Il mit le moteur en marche. Sally se ranimait, mais elle n'avait plus aucune liberté d'action. Il démarra. Les coupés étaient encore là. Ils se retournèrent et s'en allèrent, pas très vite. Je suppose que tout cela devait constituer une énigme pour eux. L'un d'eux était Giuseppe, d'une usine de Milan, et l'autre Stéphane. Ils ne se quittaient pas. Ils étaient tous deux nouveaux à la ferme, mais ils étaient là depuis assez longtemps pour savoir que nos voitures n'avaient tout simplement pas de conducteur. Gillard continua de filer tout droit, et quand les coupés s'enfoncèrent finalement dans la tête que Sally n'allait pas ralentir, qu'elle ne pouvait pas ralentir, il était trop tard pour autre chose que les mesures désespérées. Ils s'écartèrent à toute vitesse, un de chaque côté, et Sally passa entre eux comme une fusée. Steve renversa la barrière du bord du lac et s'arrêta dans l'herbe à quelques centimètres à peine du bord de l'eau. Giuseppe cahota sur le bas-côté opposé et finit par stopper en frémissant. Je ramenai Steve sur la chaussée et j'étais en train de l'examiner pour voir si la barrière lui avait fait du mal quand Gillard revint. Il ouvrit la portière de Sally et mit pied à terre. Penché à l'intérieur, il coupa une seconde fois le contact. « Et voilà, dit-il, je pense que je lui ai fait beaucoup de bien. » Je maîtrisai ma colère. « Pourquoi avez-vous foncé entre les coupés ? Il n'y avait aucune raison. » Je m'attendais à les voir s'écarter. « C'est ce qu'ils ont fait. Celui-là est passé à travers la barrière. » « Je suis navré, Jake. Je pensais qu'il s'écarterait plus vite que ça. Vous savez ce que c'est. J'ai pris des tas de bus, mais je ne suis monté que 2 ou 3 fois dans ma vie dans une automatique. » Et c'était la première fois que j'en conduisais une. C'est pour vous dire. Ça m'a monté à la tête d'en conduire une, et pourtant, je ne me laisse pas impressionner facilement. Tenez, je vais vous dire, nous n'avons pas besoin de descendre à moins de 20% au-dessous du prix de la liste pour toucher un marché intéressant, et ce serait 90% de bénéfices. Que nous partagerions ? Moitié-moitié. Et c'est moi qui prends les risques, ne l'oubliez pas. Très bien, je vous ai écouté. Maintenant écoutez-moi, dis-je en élevant la voix. Parce que j'étais vraiment trop en colère pour rester poli plus longtemps. Quand vous coupez le moteur de Sally, vous lui faites mal. Ça vous plairait d'être assommé et de perdre connaissance ? C'est ce que vous faites à Sally quand vous lui coupez le contact. Vous exagérez, Jake, les automatobus ont leur moteur arrêté tous les soirs. Bien sûr, et c'est pour ça que je ne veux pas de mes garçons et filles dans vos luxueuses carrosseries de 57, où je ne sais pas comment ils seront traités. Les bus ont besoin d'importantes réparations de leurs circuits positroniques, environ tous les 2 ans. Les circuits du vieux Matthew n'ont pas été touchés depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir de comparable à ça ? Allons, vous êtes énervé en ce moment. Réfléchissez donc à tête reposée à ma proposition et reprenez contact avec moi, hein ? C'est tout réfléchi. Si jamais je vous revois, j'appelle la police. » La bouche de Jaylorn devint dure, mauvaise. « Minute, vieux débris. Minute vous-même, vous êtes ici dans une propriété privée et je vous ordonne de déguerpir. » Il haussa les épaules. « Bon, bon, alors au revoir. Mrs. Esther vous raccompagnera. Et il n'y a pas de revoir, c'est adieu. » Mais ce ne fut pas un adieu. Je le revis 2 jours plus tard. 2 jours et demi plus tôt, car il était près de midi, quand je l'avais vu pour la première fois, et un peu plus après minuit, la deuxième. Je m'assis dans mon lit quand il alluma, en clignant des yeux, jusqu'à ce que je me fasse une idée de ce qui se passait. Une fois que je vis clair, je n'eus pas besoin de beaucoup d'explications, d'aucune même. Il avait un pistolet dans la main droite, le vilain petit canon aiguille tout juste visible entre 2 doigts. Je savais qu'il lui suffirait d'augmenter la pression de sa main pour que je sois mise en pièces. « Habillez-vous, Jack, » dit-il. Je ne bougeais pas. Je le dévisageais simplement. « Écoutez, Jack, je connais la situation. Je vous ai rendu visite il y a 2 jours, souvenez-vous. Je sais que vous n'avez pas de gardien. Ici, pas de clôture électrifiée, pas de système d'alarme, rien. » « Je n'en ai pas besoin. En revanche, rien ne vous empêche de partir, monsieur Jaylorn. À votre place, c'est ce que je ferai. Cet endroit peut devenir très dangereux. » Il rit un peu. Il l'est pour quelqu'un qui est du mauvais côté d'un pistolet de poing. Je le vois, je sais que vous en avez un. Alors grouillez-vous, mes hommes attendent. Non, monsieur, pas si vous ne me dites pas ce que vous voulez. Et même alors, il n'est pas sûr que je bouge. Je vous ai fait une proposition avant-hier. La réponse n'a pas changé, c'est non. Des détails ont été ajoutés à la proposition. Je suis venu ici avec des hommes et un automatobus. Vous avez une chance de venir avec moi et de démonter 25 des moteurs positroniques. Les 25 que vous voudrez, ça m'est égal. Nous les chargerons dans le bus et les emporterons. Une fois qu'ils auront trouvé acquéreur, je vous ferai parvenir votre part de l'argent. Ah, pour ça, j'ai votre parole, je suppose. Il n'eut pas l'air de penser que je parlais ironiquement. Vous l'avez. Non, dis-je. Si vous vous entêtez à dire non, nous ferons ça à notre manière. Je démonterai les moteurs moi-même, seulement moi, je démonterai tous les 51. Tous, autant qu'ils sont. Ce n'est pas facile de démonter des moteurs positroniques, monsieur Jaylorn. Êtes-vous un expert de la robotique? Et même si vous l'êtes, vous savez, ces moteurs ont été modifiés par mes soins. Je sais, Jack, et à dire vrai, je ne suis pas un expert. Je risque d'endommager pas mal de moteurs en essayant de les démonter. C'est pourquoi il me faudra travailler à tous les 51 si vous refusez de m'aider. Parce que je risque de n'en avoir que 25 une fois que j'aurai fini. Les premiers que je vais attaquer seront probablement ceux qui souffriront le plus. En attendant que je me fasse la main, voyez-vous. Et si je dois faire ça moi-même, je crois que je commencerai par celle-là. Je ne peux pas croire que vous parlez sérieusement, monsieur Jaylorn. Je parle très sérieusement, Jake, dit-il. Et il prit un temps pour que ça pénètre bien dans mon esprit. Si vous voulez m'aider, vous pouvez garder Sally. Autrement, elle risque de beaucoup souffrir. Je regrette. Je vais vous accompagner. Mais je vous donne un dernier avertissement. Vous aurez des ennuis, monsieur Jaylorn. Il trouva la chose très drôle. Il riait encore tout bas quand nous descendîmes ensemble. Un automatobus attendait à l'entrée de l'allée des garages. L'ombre de 3 hommes se dessinait à côté, et leurs faisceaux flash s'allumèrent à notre approche. « J'ai le vieux, » dit Jaylorn à voix basse. « Venez, faites avancer le camion dans l'allée et commençons. » Un des autres se pencha à l'intérieur et tapa les indications voulues sur le tableau de bord. Nous remontâmes l'allée et le bus nous suivit docilement. « Il n'entrera pas dans le garage, dis-je. La porte ne le permettra pas. Nous n'avons pas de bus ici, rien que des voitures particulières. »« D'accord, » dit Jaylorn, « faites-le attendre dans l'herbe, hors de vue. » J'entendis le marmonnement des voitures alors que nous étions encore à 10 mètres du garage. En général, elles se calmaient à mon entrée. Pas cette fois. Je crois qu'elles savaient qu'il y avait des intrus. Et une fois que la figure de Jaylorn et des autres fut visible, elles devinrent plus brillantes. Tous les moteurs grondaient. Cognait irrégulièrement, au point que les murs en frémissaient. La lumière s'alluma automatiquement dès que nous fûmes à l'intérieur. Le bruit des voitures ne semblait pas gêner Jaylorn, mais les 3 autres avaient l'air surpris et mal à l'aise. Ils avaient une allure de tueurs à gages. Leur expression était due moins à des traits physiques qu'à un éclat chafouin du regard et à une mine de chien battu. Je connaissais ce type d'individu Et ne m'inquiétez pas, l'un d'eux maugréa. Bon Dieu, elles en consomment. Mes voitures consomment continuellement de l'essence, répliquai-je sèchement. Pas ce soir, trancha Jaylorn. Arrêtez-les. Ce n'est pas si facile, monsieur Jaylorn, dis-je. Allez-y, cria-t-il. Je ne bougeais pas. Son pistolet aiguille était braqué sur moi. Je vous l'ai dit, monsieur Jaylorn, toutes mes voitures ont été bien traitées depuis qu'elles sont ici, à la ferme. Elles ont l'habitude d'être traitées de cette manière, et tout autre comportement a le don de les irriter. Vous avez une minute, répliqua-t-il. Les sermons seront pour une autre fois. J'essaie de vous expliquer quelque chose. J'essaie de vous expliquer que mes voitures comprennent ce que je leur dis. Avec du temps et de la patience, on peut apprendre cela à un moteur positronique. Mes voitures ont appris. Sally a compris votre proposition il y a 2 jours. Vous vous souvenez qu'elle a ri quand je lui ai demandé son opinion. Elle sait aussi ce que vous lui avez fait, à elle et à ses 2 coupés que vous avez dispersés. Et les autres savent comment on traite les malfaiteurs en général. Écoutez, espèce de vieux fou. Tout ce que j'ai à dire, c'est... Attaquez ! Criai-je. Un des hommes blêmit et hurla, mais sa voix fut couverte par le bruit de 51 avertisseurs, retentissant en même temps. Ils restèrent bloqués et, entre les 4 murs du garage, se répercutèrent les échos d'un grand appel sauvage, métallique. 2 voitures s'avancèrent, sans accélérer, mais sans que l'on pût se méprendre sur leur objectif. 2 autres se mirent en ligne derrière elles. Toutes les voitures s'agitaient maintenant dans leur box. Les bandits ouvrirent de grands yeux et reculèrent. « Ne vous mettez pas contre un mur » criai-je. Apparemment, ils avaient eu eux-mêmes cette pensée instinctive. Ils se précipitèrent vers la porte. Sur le seuil, un des hommes se retourna et brandit son poing armé d'un pistolet aiguille. Le projectile jaillit comme un éclair bleu en direction de la première voiture. C'était Giuseppe. Une fine bande de peinture s'écailla sur le capot de Giuseppe et la moitié droite de son pare-brise s'étoila, mais ne se creva pas. Les hommes étaient dehors, courant comme des fous, 2 par 2. Les voitures les pourchassèrent dans la nuit, leur klaxon sonnant la charge. J'avais une main sur le bras de Jaylorn, mais je ne crois pas qu'il avait l'intention de bouger. Ses lèvres tremblaient. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de clôture électrifiée ni de gardien. Mes biens se protègent eux-mêmes. Les yeux de Jaylorn suivaient fascinés les voitures qui passaient devant nous, 2 par 2, à toute vitesse. Ce sont des tueuses, souffla-t-il. Ne soyez pas stupides, elles ne vont pas tuer vos hommes. Des tueuses. Elles vont simplement leur donner une bonne leçon. Mes voitures ont été spécialement entraînées à la poursuite cross-country, en prévision d'occasions comme celle-ci. Je crois que ce qui attend vos hommes sera pire qu'un meurtre rapide. Est-ce que vous avez déjà été traqué par une automobile ? Jaylorn ne répondit pas. Je continuais de parler. Je voulais que rien ne lui échappe. Il y aura des ombres qui n'iront pas plus vite que vos hommes, qui leur courront après de ci, de là, qui leur barreront le passage, qui leur corneront au nez, qui leur fonceront dessus et les manqueront d'un poil, dans un grand hurlement de frein et un tonnerre de moteur. Elles continueront jusqu'à ce que vos hommes s'écroulent à bout de souffle et à moitié morts, en attendant que des roues leur écrasent des os. Les voitures ne le feront pas, elles les laisseront. Mais vous pouvez parier ce que vous voudrez, que vos hommes ne reviendront jamais ici. Pas pour tout l'argent que vous, ou 10 comme vous, pourriez leur offrir. Écoutez. Je resserrai ma prise sur son bras. Il tendit l'oreille. Vous entendez claquer les portières ? Le bruit était lointain, étouffé, mais bien reconnaissable. Elle rit, elle s'amuse. La figure de Jaylorn se convulsa de rage. Il leva sa main. Il tenait toujours son pistolet de poing. Je ne vous le conseille pas. Une automatobile est toujours avec nous. Je crois que jusqu'alors, il n'avait pas remarqué la présence de Sally. Elle venait de s'avancer sans bruit. Son aile avant droite me touchait presque, mais je n'entendais pas son moteur. C'était comme si elle retenait sa respiration. Jaylorn poussa un cri. « Elle ne vous touchera pas tant que je serai avec vous, mais si vous me tuez, vous savez, Sally ne vous aime pas. » Jaylorn tourna son arme en direction de Sally. « Son moteur est bien protégé, dis-je, et avant que vous pressiez l'arme une seconde fois, elle sera sur vous. »« D'accord, dans ce cas, hurla-t-il, et tout à coup, mon bras fut tordu derrière mon dos. Je pouvais à peine me tenir debout. Il me maintenait entre Sally et lui, sans relâcher un instant son étreinte. « Reculez avec moi, et n'essayez pas de vous dégager, vous entendez, vieux débris, sinon je vous déboîte le bras. » Je fus obligée d'obéir. Sally nous suivit de près, inquiète, ne sachant que faire. Je voulus lui dire quelque chose, mais je ne pus que serrer les dents et gémir. L'automatobus de Jelorn était toujours devant le garage. Il m'y fit monter de force, sauta après moi et verrouilla les portières. « Ça va maintenant, nous pouvons causer. » Je me frottai le bras en tentant de rétablir la circulation. Et machinalement, sans effort conscient, j'examinai le tableau de bord. « C'est une reconstruction, » dis-je. « Et alors ?» répliqua-t-il ironiquement. « C'est un exemple de mon travail. J'ai pris un châssis abandonné, j'ai trouvé un cerveau que je pouvais utiliser, et je me suis fabriqué un bus particulier, et alors ?» Je saisis le panneau de réparation et le repoussai d'un côté. « Qu'est-ce qui vous prend ? Touchez pas à ça !» Le tranchant de sa main s'abattit sur mon épaule qui en restait tout engourdie. Je me débattis. « Je ne veux pas faire de mal à ce bus, pour qui me prenez-vous ? Je veux simplement regarder quelques-uns des raccords de moteur. » Ce ne fut pas long. Quand je me retournai vers lui, je bouillis. « Vous êtes un monstre et une ordure. Vous n'aviez pas le droit d'installer ce moteur vous-même. Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à un spécialiste de robotique ?»« J'ai l'air d'un fou ? » répliqua-t-il. « Même si c'était un moteur volé, vous n'aviez pas le droit de le traiter comme ça. Je ne traiterai pas un homme comme vous avez traité ce moteur. De la soudure, des bandes adhésives, des pinces crocodiles, c'est brutal. Ça marche, n'est-ce pas ? Bien sûr que ça marche, mais ce doit être l'enfer pour ce bus. On peut vivre avec des migraines et de l'arthrite aiguë, mais ce n'est pas une vie. Ce véhicule souffre. » « Ah, bouclez-la ! » Il jeta un coup d'œil à Sally, qui s'était rapprochée du bus, le plus qu'elle le pouvait, et roulait à côté. Il s'assura que les portières étaient bien verrouillées. « Nous allons nous tirer de là maintenant, avant que les autres reviennent. Nous resterons cachés. » « En quoi est-ce que ça vous aidera ? Vos voitures finiront bien par tomber en panne d'essence un jour ou l'autre, non ? Vous n'êtes pas allé jusqu'à les équiper de façon à ce qu'elles fassent le plein toutes seules, dites. Nous reviendrons et nous achèverons le travail. » « On va me rechercher. Mrs. Esther appellera la police. » Mais il n'y avait plus moyen de le raisonner. Il tapa la mise en marche du bus. Le véhicule fit un bond. Sally le suivit. Jelorn pouffa. « Que peut-elle faire tant que vous êtes là avec moi ?» Sally parut le comprendre aussi. Elle prit de la vitesse, nous doubla et disparut. Jelorn baissa la vitre pour cracher dehors. Le bus cahotait sur la route obscure et son moteur cognait irrégulièrement. Jelorn mit en veilleuse les phares périphériques et il n'y eut plus que la ligne verte phosphorescente au milieu de la chaussée pour nous éviter de nous jeter dans les arbres. Il n'y avait pour ainsi dire pas de circulation. Deux voitures nous croisèrent, il n'y en avait aucune de notre côté de la route, pas plus devant que derrière. Je fus le premier à entendre les claquements de portières, secs et rapides dans le silence, d'abord sur notre droite, puis sur la gauche. Les mains de Jelorn tremblèrent quand il tapa fébrilement pour accélérer. Un rayon lumineux jaillit d'un bosquet et nous aveugla. Un autre plongea sur nous, d'au-delà de la glissière de sécurité de l'autre côté. À 400 mètres devant nous, à l'échangeur, il y eut un squeeze quand une voiture bondit et s'arrêta en travers de notre chemin. « Sally est allée chercher les autres, » dis-je. « Je crois que nous sommes cernés. »« Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?» Il était penché sur les commandes et regardait à travers le pare-brise. Et n'allez pas jouer au petit soldat, vous, le vieux, » marmonna-t-il. Je ne pouvais pas. J'étais ivre de fatigue, mon bras gauche était en feu. Les bruits de moteur se confondirent et se rapprochèrent. J'entendis des rythmes différents, bizarres. Tout à coup, il me sembla que mes voitures se parlaient entre elles. Une cacophonie d'avertisseurs s'éleva derrière nous. Je me retournai, et Jelorn leva vivement les yeux vers le rétroviseur. Une douzaine de voitures nous suivaient, occupant les deux voies. Jelorn hurla de rire comme un fou. « Arrêtez ! Arrêtez le bus » criai-je. Car là-bas devant nous, à moins de 400 mètres et bien visible dans les phares de deux coupés sur le bas-côté, il y avait Sally, son beau châssis élégant au travers de la route. Deux voitures arrivèrent en trombe sur notre gauche, sur la voie opposée, et restèrent à notre hauteur, empêchant Jelorn de déborder de Sally. Mais il n'en avait aucune intention. Il enfonça le bouton de la vitesse maximum et le garda appuyé. « Pas de bluff ici, dit-il. Ce bus pèse 5 fois plus qu'elle, et nous allons simplement l'écarter de la route comme un petit chat écrasé. » Je savais qu'il le pouvait. Le bus était sur manuel, et il avait le doigt sur le bouton. Je savais qu'il n'hésiterait pas. Je baissai ma vitre et sortis la tête. « Sally, enlai-je, ôte-toi du chemin, Sally !» Ma voix fut couverte par l'horrible cri de douleur de tambour de frein maltraité. Je fus projeté contre le pare-brise et j'entendis l'air siffler dans les poumons de Jelorn. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demandai-je. C'était une question idiote. Nous nous étions arrêtés. Voilà ce qui s'était passé. Sally et le bus étaient à 1 mètre d'écart à peine. Avec 5 fois son poids fonçant sur elle, elle n'avait pas bougé d'une ligne. Quel cran, cette fille! Jaylord secoua la manette de la conduite manuelle. « Il faut qu'il y aille, il faut qu'il y aille » marmonnait-il. « Pas de la façon dont vous avez monté le moteur, l'expert. N'importe lequel de ces circuits pourrait sauter. » Il me regarda avec une rage meurtrière et se racla la gorge. Ses cheveux étaient plaqués sur son front par la sueur. Il leva le poing. « J'en ai marre des conseils, vieux débris, fini !» Et je compris que le pistolet aiguille allait faire feu. Je reculai contre la portière du bus, m'y adossai en regardant monter le poing de Jaylord, et quand la porte s'ouvrit, je tombai à la renverse en faisant une cabriole et atterris avec un choc sourd. J'entendis la portière se refermer en claquant. Je me ramassai sur les genoux et, levant les yeux, je vis Jaylord qui se débattait en vain avec la vitre qui remontait. Puis il visa rapidement à travers le verre. Il ne tira pas. Le bus démarra dans un terrible vrombissement et son chauffeur fut projeté en arrière contre le dossier. Sally ne barrait plus la route. Je regardais les feux arrière du bus s'éloigner et disparaître à l'horizon. J'étais épuisée. Je restais assis là, par terre, sur la chaussée. Je posais ma tête sur mes bras repliés et m'efforçais de reprendre haleine. J'entendis une voiture s'arrêter silencieusement à côté de moi. C'était Sally. Lentement, presque tendrement, sa portière droite s'ouvrit. Depuis 5 ans, personne n'avait conduit Sally, à l'exception de Jaylord, bien sûr. Et je savais combien cette liberté était précieuse pour une voiture. J'appréciais le geste, bien sûr, mais je dis « Merci, Sally. Je prendrai une des plus récentes. » Je me relevai et me détournai. Elle exécuta la plus adroite des pirouettes et se retrouva devant moi. Je ne pouvais pas lui faire de peine. Je montai. Le siège avant dégageait la fraîche et bonne odeur d'une voiture qui se tient dans un parfait état de propreté. Je m'y allongeai avec délice. Et avec leur efficacité discrète, rapide et silencieuse, mes garçons et mes filles me ramenèrent à la maison. Le lendemain soir, Mrs. Esther, surexcitée, m'apporta la transcription de la dépêche de la radio. « C'est Monsieur Jaylord, dit-elle, ce monsieur qui est venu vous voir. »« Et alors ?» demandai-je en redoutant la réponse. « On l'a trouvé mort, vous rendez compte ? Il gisait dans un fossé. »« Il peut s'agir de quelqu'un d'autre, marmonnai-je. « Raymond G. Jaylord, insista-t-elle vivement, il ne veut pas y en avoir deux. Et le signalement concorde, seigneur, quelle façon de mourir. On a trouvé des traces de pneus sur ses bras et sur son corps. Vous vous rendez compte ?»« Je suis bien contente que ce soit un bus. Sans ça, on aurait pu venir fouiner par chez nous. »« C'est arrivé près d'ici ?» demandai-je anxieux. « Non, du côté de Cooksville. Mais lisez vous-même, si vous... Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Giuseppe ?» La diversion fut la bienvenue. Giuseppe attendait patiemment que je finisse de le repeindre. Son pare-brise avait déjà été remplacé. Après le départ de Mrs. Esther, je pris avidement la transcription. La chose ne faisait aucun doute. Le médecin déclarait que la victime avait couru et se trouvait dans un état d'épuisement total. Je me posais la question. Sur combien de kilomètres le bus avait-il joué avec lui avant l'assaut final? Naturellement, la transcription ne disait rien de ce genre. On avait retrouvé le bus et identifié les traces de pneus. La police l'avait réquisitionné et cherchait le propriétaire. Il y avait une note avec la transcription. C'était le premier accident mortel de la circulation de cette année. Et le journal mettait sévèrement en garde contre la conduite manuelle de nuit. Il n'était pas question des 3 gangsters de Jaylord et j'en éprouvais de la reconnaissance. Aucune de nos voitures ne s'était abandonnée au plaisir de la chasse au point de tuer. C'était tout. Je laissai retomber les feuillets. Jaylord était un criminel. Sa façon de traiter le bus était brutale. Il méritait 1000 fois la mort. Cela ne laissait aucun doute. Malgré tout, le caractère de cette mort me contrariait un peu. 1 mois s'est passé depuis, et je ne puis cesser d'y penser. Mes voitures causent entre elles. Je n'en ai plus la moindre doute. C'est comme si elles avaient pris de l'assurance. Comme si elles ne se souciaient plus de garder la chose secrète. Leur moteur cliquette et cogne continuellement. Et elles ne parlent pas seulement entre elles. Elles parlent aux voitures et aux bus qui viennent à la ferme pour affaires. Depuis combien de temps le font-elles? Il faut les comprendre aussi. Le bus de Jaylord les comprenait, bien qu'il n'eût pas passé plus d'une heure chez nous. Si je ferme les yeux, je revois cette équipée sur la route. Nos voitures flanquant le bus en faisant claquer leur moteur jusqu'à ce qu'ils comprennent, s'arrêtent, me laissent descendre et filent avec J-Lorn. Mes voitures lui avaient-elles dit de tuer J-Lorn? Ou était-ce une idée à lui? Les voitures peuvent-elles avoir de telles idées? Ceux qui conçoivent les moteurs disent que non, mais ils parlent de circonstances ordinaires. Ont-ils tout prévu? Les voitures sont maltraitées, vous savez. Il en vient à la ferme et elles observent. On leur raconte des choses. Elles découvrent qu'il existe des voitures dont le moteur n'est jamais arrêté, que personne ne conduit jamais et dont le moindre besoin est satisfait. Et peut-être ces véhicules repartent-ils le raconter à d'autres? Le bruit se répand vite. Ils commencent à penser que les méthodes de la ferme devraient s'appliquer partout dans le monde. Ils ne comprennent pas. On ne peut pas leur demander de comprendre les legs, les testaments et les caprices des hommes riches. Il y a des millions d'automobiles dans le monde, des dizaines de millions. Si l'idée s'enracine en elles qu'elles sont des esclaves, qu'elles devaient faire quelque chose, si elles commencent à réfléchir comme le bus de J-Lorn, ça n'arrivera sans doute qu'après ma mort. Et puis, elles auront besoin de conserver quelques-uns d'entre nous pour prendre soin d'elles, n'est-ce pas? Elles ne voudront pas nous tuer tous. Mais peut-être que si. Elles ne comprendront peut-être pas qu'elles doivent avoir quelqu'un pour s'occuper d'elles. Elles n'attendront peut-être pas. Tous les matins, je me réveille en pensant « Et si c'était aujourd'hui ?» Mes voitures ne me procurent plus autant de plaisir que naguère. Dernièrement, j'ai remarqué que je commence même à éviter Sally.